Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, jeudi 6 novembre, vous savez qu'on a un rendez-vous incontournable à 12h30, c'est qu'on retrouve Claire Marie. Claire Marie, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors aujourd'hui, c'est une émission à consommer avec modération, hein, parce que tu vas nous parler des distilleries à Haute-Loire, hein, ou à Craponne.
Oui, ouais. Voilà. Et puis, il y en avait beaucoup, alors on va se contenter de parler de celles qui sont sur Craponne.
D'accord. Eh bien, on t'écoute.
Alors, c'est un article qui vient de paraître dans l'Histoire sociale de la Haute-Loire et qui est signé Annie Jante. Donc, dans Craponne et ses environs, on va recenser un peu toutes les fabricants d'alcool et de quina, etc. Il y avait donc la distillerie Claude Charbonnier et Marie-Joséphine Bordet, qui a été fondée en 1900. Claude Charbonnier, fils d'agriculteur, exerce d'abord la profession de boulanger avec son frère Henri-Joseph. Claude se marie avec Marie-Joséphine Bordet en 1897 et 3 ans plus tard, il installe sa distillerie sous la raison sociale Charbonnier-Bordet à Craponne. C'est en juin 1909 qu'il dépose au greffe du tribunal du Puy 2 marques de sa production au superlatif prometteur, l'excellent et l'imperfectible. L'apéritif l'excellent, un quina rosé, qualifié encore de meilleur des apéritifs, et fait partie de la famille des quinquina. Ce vin, obtenu grâce à la macération de l'écorce de l'arbre des fièvres, est dessiné en arrière-plan sur l'étiquette avec quelques inflorescences, mais on s'en défend. Ah, ce vin n'est pas un médicament. Même si la publicité faite au bas de l'étiquette persévère sur ce produit apéritif des plus salutaires et considéré comme le meilleur des topiques. Son succès est une garantie des qualités merveilleuses qu'il possède contre les faiblesses d'estomac et le manque d'appétit. La seconde marque déposée est l'imperfectible, une liqueur digestive dont on ne connaît pas la composition. Peut-être une autre vie, comme pourrait suggérer le monogramme C et B, entouré de grappes de raisin. Selon le recensement, la distillerie occupe des locaux Place aux Fruits en 1911, rue Centrale en 21 et avenue de la Prairie en 36. En 35, Claude Charbonnier-Bordet dépose la fraise du bois noir, une liqueur hygiénique qui se consomme pure ou étendue d'eau. Additionnée d'eau de sels, elle devient un excellent rafraîchissant. Mélangée au vin blanc ou au vermouth, etc., elle constitue un apéritif très recherché. La liqueur verveine du Vivarais, un digestif, est déposée la même année, sous la protection d'un aigle aux ailes déployées, perché sur un croissant de lune surmontant une banderole où est inscrit selon la loi. Sous le dessin, une notice présente le produit. La verveine du Vivarais doit sa grande finesse de goût aux vieilles eaux de vie, à la verveine odorante et aux plantes aromatiques des montagnes qui entrent dans sa composition. La verveine du Vivarais constitue une des meilleures liqueurs de dessert. Hygiénique par excellence et d'un parfum exquis, elle est très agréable au goût et facilite puissamment la digestion. L'étiquette, présentée sur fond jaune ou fond vert selon les époques, est un renouvellement de dépôt réalisé tous les 15 ans. Elle prend en compte la reprise de la distillerie de Claude Charbonnier par ses enfants, René et Jean-Marcel, frères et successeurs, avec la signature du fabricant. Ils développent l'entreprise et produisent aussi sirop et limonade. Mais au fil des années, l'envol de l'aigle de profil reste l'emblème de cette verveine, primée à Paris en 2016, médaille d'or du concours général agricole décerné aux descendants de la maison Charbonnier. Sur les 3 nouvelles étiquettes, relookées par l'affichiste Al Capan, l'emblème de l'aigle en plein vol est toujours présent et accompagne la verveine La Vivarèse avec en fond 3 sites emblématiques de la Haute-Loire. Craponne-sur-Arzon, la Chaise-Dieu et le site du Puy-en-Velay. Après des rachats successifs par les dépôts Johannes Bonnet, Louis Desmourgues, la société Udivel a été reprise par les entreprises Souchon. mais la liqueur de verveine reste dans le giron de la famille avec la création de la SAS Charbonnier. Il y a eu aussi la distillerie des frères Claudius et André Petit vers 1908. Les apéritifs quinquina à base de vins aromatisés de diverses racines et plantes, dont l'écorce de quinquina, macérés dans de nombreuses épices, cannelle, clou de girofle, noix de muscade, noix de cola, eh bien, ils mettent en avant leurs propriétés toniques, fortifiantes, apéritifs, digestifs, fébrifuges et bienfaisantes. Bienfaisantes pour les estomacs délicats et particulièrement indiquées pour combattre le manque d'appétit. À Craponne, on boit le petit quina, un vin apéritif au léger parfum de framboise, inventé par deux frères, Claudius et André Petit. La signature des inventeurs, le dépôt au greffe du tribunal de l'étiquette en 1908, la bouteille allongée en verre marron, gravée à l'épaule du nom de la distillerie, rehaussée de l'armoirie des frères Petit et de sa devise « Je maintiendrai », assure, eh bien, aux déposants une garantie contre l'imitation. L'étiquette est entourée d'une vigne prometteuse, porteuse de nombreuses grappes de raisin. Les quinquinas sont à la mode et la distillerie Petit a su introduire ses excellents apéritifs dans les grands établissements de Vichy, ainsi que dans les épiceries et bouchons lyonnais, ce qui lui garantissait un beau chiffre d'affaires. Les bâtiments spacieux sont encore la preuve de cette notoriété. Tout comme la distillerie Bagès de Brioude, les frères Petit distribuent aussi une liqueur particulière qui, aujourd'hui, à la seule évocation du nom, ferait fuir la clientèle. Selon la posologie imprimée sur l'étiquette, la liqueur, à la fois tonique et digestive, à base de coudron de Norvège, se recommande par ses principes balsamiques et ses propriétés hautement hygiéniques. Le paysage montagneux, non représentatif de la campagne craponnaise, rappelle la liqueur obtenue par la macération de plantes, distillation d'eau, de vie, de résine de vin et d'huile de térépentine. Selon les souvenirs d'Eugène Juliac, les frères Petit, qui avaient, dit-il, la cinquantaine alerte, l'élégance stricte, toujours tirée à quatre épingles, costume trois pièces, feutre à bord roulé, cravate, canne et gants, eh bien, ils font partie de la petite bourgeoisie de Craponne. L'aîné, Claudius, a une réputation d'homme juste et bon. C'est lui qui dirige l'entreprise. Son frère André est adjoint de direction. En reconnaissance de l'activité économique fournie par leur distillerie, le conseil municipal donne le nom d'avenue du Petit Quina à un chemin vicinal longeant la voie ferrée, avenue qui existe toujours depuis 1912. Sans descendance, les frères Petit cèdent leur commerce à la famille d'Eugène Juliac et Tinère de Craponne. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de limonadier, quinquina, goudron et autres liqueurs sont associés à la fabrique de boissons gazeuses des repreneurs de la distillerie Petit Frère. Les étiquettes des liqueurs de luxe, comme l'abricot du Velay, la verveine d'Auvergne, la prunelle d'Arzon, le cacao chouva, la crème de noisette, la liqueur d'or, etc., présentaient l'hôtel de ville, l'église, le tonchon et sa vieille horloge et participaient à la promotion de la ville de Craponne. Ce visuel a été dessiné par Eugène Juliac, qui est né en 1921 et décédé en 2002. Il était l'auteur d'un opuscule intitulé « Craponne, de mémoire d'homme », où il relate ses souvenirs. La distillerie Juliac et Tinère propose aussi une gamme de liqueurs sous les initiales JT, dont la fraise du Velay, grande liqueur des fraises des bois, marque déposée après 1947, ainsi que l'apéritif Petit Quina. Par le décret du 15 mars 1987, c'est pas si vieux, non, 1897, la ville de Craponne est autorisée à prendre le nom de Craponne-sur-Arzon. Une décision qui se concrétisera autour de 1900-1910. La distillerie et mais M-E-Y, a été créée après l'application du décret, peut-être entre 22 et 30. Le dessin de l'église ne fait pas partie du patrimoine de Craponne-sur-Arzon. Et pourquoi avoir choisi l'évêque Saint-René pour la promotion du quinquennat? Eh bien, nous l'ignorons. Après, on a la distillerie. Je sais plus où j'en suis, moi. Alors. Distillerie qui fabrique le kirsch de Beauzac à partir de 1878. Encouragé par le maire de Beauzac, Richard Gustave, propriétaire à Vouze, et qui souhaite se rendre à l'exposition universelle à Paris en 1878 pour se faire connaître, fédérer et stimuler la fabrication du kirsch de Beauzac, qui, dit-il, peut rivaliser avec ceux de la Forêt Noire. Selon Émile Hérisson, qui était professeur départemental d'agriculture de la Haute-Loire, cet eau-de-vie est obtenu par un grand nombre de cultivateurs des communes de Basse, Beauzac, Malavalette, Boisset, Tirange, Valprivat et Saint-Pal-en-Chalancon, avec une espèce sélectionnée de cerises du pays. La plantation des cerises à kirsch dans ces coteaux impropres à toute autre culture est encouragée par les rendements prometteurs. Selon la tradition, cette fabrication aurait été introduite par un curé de Valprivat, à partir d'une petite cerise noire produite par un cerisier sauvage, le merisier. La cerise est récoltée mûre, puis mise en fût de 200 litres avec les noyaux. La fermentation dure de 2 à 6 mois, puis la distillation du jus est faite par des bouilleurs de crue qui se rendent chez les cultivateurs. Un gros merisier donne de 20 à 24 litres de kirsch, mis en bouteille dans de simples flacons sans étiquette. Au grand regret de M. Hérisson et de quelques propriétaires, cette eau-de-vie extraite de la cerise sauvage fermentée n'est pas commercialisée. Et parce que les agriculteurs se réservent cette consommation locale, le plus souvent destinée aux amis et aux personnes qui rendent de ces services qui ne se payent pas en argent. Tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça? Eh bien, c'est parce que les cabarets ont proliféré en campagne comme en ville, parallèlement à l'essor industriel et démographique. Les petits de débit de boissons sont souvent des commerces polyvalents. Café-bar, café-épicerie, café-mercerie, café-droguerie, café-bureau de tabac. Et chaque village en dénombre plusieurs autour de la place principale où se tiennent artisans, foires et marchés. La licence d'exploitation la plus petite n'autorise pas d'autres ventes que le vin ou l'apéritif titrant moins de 23 degrés d'alcool. Et les boissons sans alcool aussi, ce qui assure le succès des vins de quina, apéritif et liqueur dans les petits débits de boissons, et la prospérité des distilleries artisanales. La clientèle est principalement masculine et tous les prétextes sont bons pour finir au café. La fin de journée, la sortie des usines, des ateliers ou de chantiers, le dimanche après la messe, des jours de foire aux bestiaux, où paysans et maquignons marchands se tapent dans la main pour conclure leurs affaires. Des journaliers et artisans partagent leurs soucis, échangent les nouvelles du canton, entre la chantiane, la prune, la sainte, le genièvre, la verveine, le vin, le quina et autres boissons diverses et variées. Situés au sein des villages, cafés et bistrots ont servi de lieu de rendez-vous, de salle des fêtes, de salle des jeunes, de cantine scolaire, d'annexe de la mairie. Lorsqu'ils sont encore présents dans les villages ruraux, ils sont aujourd'hui des lieux de multiservices. Le 27 septembre 2024, le ministère de la Culture a décidé d'inscrire les pratiques sociales et culturelles des cafés et bistrots de France à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Cette inscription souligne l'importance de ces lieux de vie populaires accueillants, où se tissent des liens sociaux entre partage, respect, convivialité. Ils sont considérés comme un art de vivre français. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Jean-Pierre.
Eh bien, merci Claire, tu nous as rappelé des bons souvenirs. Et on parlait d'Eugène Juillac, qui a écrit ce bouquin, qui est très intéressant. Et à l'époque, il y avait 105 bistrots à Craponne, c'est incroyable. Mais il faut dire aussi, tu le disais un petit peu, que tout se faisait au café. Tout, les transactions, les ventes, les achats, les gens, tout se faisait au bistrot. Donc c'est pour ça qu'il y en avait autant. Hein. Voilà. Et ça nous a rappelé des souvenirs et des gens qu'on a bien connus, hein, c'est ça surtout. Mais bien sûr, à consommer avec modération, sans problème.
Ah, ben évidemment, ouais. Évidemment. Ou alors en cachette.
Voilà. Merci Claire, et à la semaine prochaine.
Au revoir. Jean-Pierre.
Au revoir. Au revoir. Et on ne pouvait pas se quitter sans écouter ça quand même. Hein.
C'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, la 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 la. Ma mignonnette, allons dans les bois du roi, nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans les bois, ma mignonnette, allons dans les bois du roi. Un petit coup, la 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 la, un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est nous. J'aime le jambon et la saucisse, j'aime le jambon quand il est bon, mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse, j'aime le jambon quand il est bon. Un petit coup, la la la, la un petit coup, la 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 la, un petit coup, c'est... Martin, tu n'auras pas ma rose. Non, Martin, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Martin, tu n'auras pas ma rose. Non, Martin, tu n'auras rien. Un petit coup, la 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 la. C'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est...